c'était le titre, le thème de cette année pour vous, c'était Vivre Christ en moi. Donc, quand Sylvie m'a envoyé ce sujet, je suis retourné à réfléchir sur un texte que j'ai toujours bien aimé, mais ça a été toujours un grand défi pour moi. C'est un thème sur lequel je dois retourner de temps en temps. Et donc, je me suis retrouvé à nouveau à lire ce texte qui est défiant de quelque part. C'est Galates 2:20. Galates 2, verset 20. J'étais crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc on dirait que c'est un texte normal, mais quand je pense que quand l'apôtre Paul dit « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », quand même c'est défiant. Je pense que lui, il a vécu vraiment ça, ce qu'il a dit, ce qu'il dit ici. Donc, et c'est quelque chose que je dois retourner de temps en temps pour comprendre vraiment ce qui vit. C'est moi ou c'est lui. Bon, ça devrait être assez évident de qui se vit, de qui vit, c'est les résultats. Parce que le fait que Christ vit en moi, ça veut dire que ce que les autres devaient voir de ma vie serait de voir Christ. Et voir Christ, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire son caractère, mais aussi sa façon de faire les choses qu'il a fait. Et là, c'est un grand défi. Déjà, le caractère, c'est un bon défi. Est-ce que je montre le caractère? C'est une belle question pour demander à ma femme. Voilà. Est-ce qu'elle voit mieux de moi ce que j'ai, qu'est-ce que je vis, non? Et les autres aussi voient davantage. En plus de faire ce qu'il a fait, parce que ça veut dire les deux choses, ça veut dire le être, le faire. Là aussi, j'ai des questions. Parce que je ne vais pas forcément voir tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je ne sais pas ce que vous pensez. Donc c'est vrai pour les hommes et pour les femmes. Hein. Je ne vois pas la différence, sauf que nous sommes différentes. Mais je veux dire, nous sommes au même niveau et nous avons le même défi. Donc même ce Christ en soi-même est un homme de comment il a vécu, mais il se manifeste en nous, au travers de nous, comme homme et comme femme. Donc ça veut dire que c'est la même chose. Ce n'est pas qu'il y a une différence de façon de vivre, d'exprimer la vie de Christ, c'est le même. Donc, ce que Jésus, Christ a fait sur la terre, aujourd'hui, ça peut être une femme qui le fait. N'est-ce pas? Okay. Je n'ai pas grandi avec ce concept, moi, dans le contexte. Mais après, j'ai vécu dans ce contexte où il y a les hommes, ils ont des privilèges que les femmes, ils n'ont pas. Mais ça, ce n'est pas la Bible, donc. L'apôtre Paul dit qu'en Christ, nous sommes les mêmes. Donc, nous avons la même valeur, la même dignité et le même appel, n'est-ce pas? Donc, bien sûr, il y a une différence de rôle, mais quand même, nous sommes tous appelés à vivre ce texte, n'est-ce pas? Donc, c'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Alors, je dis, je reviens normalement pour comprendre ça. Et c'est un grand défi parce que Nous sommes nés, nous avons grandi à vivre différemment. Nous sommes déjà nés dans une vie que l'apôtre Paul donc appelle la vie de la chair. Nous sommes tous nés comme ça depuis la chute d'Adam et Ève. Nous sommes nés, nous avons grandi dans l'indépendance de Dieu, dans une vie qui est basée sur nos forces, sur nos capacités, sur ce que nous pensons, sur ce que nous voulons. Et c'est un moment que nous connaissons Christ, nous sommes de nouveau, tout doit changer dans le sens que nous devons vivre différemment. Cette vie de Christ, c'est une vie de Christ en nous, c'est une vie de dépendance de lui. C'est plus nous que nous pensons comme ce que nous voulons, ce que nous pensons, c'est plus nous ce que nous ressentons, c'est plus nous ce que nous voulons. Ça devrait être celui qui pense en moi, celui qui ressent des choses en moi, il y a des émotions qui sont les siennes. Et une volonté qui c'est la sienne. Est-ce que ce n'est pas un défi quand on est déjà dans l'indépendance, on commence à vivre sur cette forme d'indépendance, et après, tout devrait changer avec la nouvelle naissance, n'est-ce pas? La nouvelle naissance, c'est là pour nous amener à vivre à nouveau cette dépendance de Dieu se permettre à Dieu de nous diriger dans nos pensées, dans nos sentiments et dans notre volonté. Ça, c'est la vie en Christ. Ça veut dire qu'on pense comme lui, on ressent comme lui et on veut ce qu'il veut. C'est pas un défi pour vous, mais pour moi, c'est un défi. En effet, vivre Christ, ça veut dire, selon une autre façon de dire de l'apôtre Paul, c'est marcher par l'esprit et pas par la chair. Donc, marcher par l'esprit, ça veut dire vivre Christ, parce que l'esprit est là pour faire vivre Christ en nous. Donc, c'est synonyme, marcher par l'esprit, c'est synonyme de vivre Christ en nous, parce que le Saint-Esprit, c'est ça qu'il veut faire, accomplir en nous. Donc, Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut vivre du jour à la nuit, même si quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, ça c'est le commencement d'une vie par l'Esprit. Mais ce n'est pas forcément que le jour d'après, on marche par l'Esprit et pas par la chair, n'est-ce pas? C'est un chemin, un processus. En Romains 8, 9, l'apôtre Paul dit: pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Ça veut dire que, pour moi, ça veut dire qu'il y a toujours, nous vivons toujours dans ce combat entre la vie de la chair, dont nous avons l'habitude, et marcher par l'esprit. C'est un choix pour mourir à nous-mêmes et pour vivre Christ. Donc c'est un processus qui devrait être un processus qui fait partie de chaque jour de notre vie, et que quand même ça va durer toute notre vie. Je pense qu'on n'y arrivera jamais complètement. Même l'apôtre Paul dit: je suis encore en voyage, je suis encore dans le processus, je n'ai pas dit que je suis déjà arrivé au but, mais je marche pour aller dans cette direction. Donc il était bien avancé dans cette expérience à cause de ce qu'il dit qu'on a vu avant. Dans Romains 12, il dit: ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. C'est plus que ça, mais je veux dire, ça me parle de ce processus. C'est un processus de changement, de renouvellement, dans lequel la chair devrait mourir davantage et la vie de l'esprit devrait grandir davantage. Donc il y a un processus. Il y a un processus qui fait partie de la vie de chaque jour. Alors quand je réfléchissais à ça, je dis comment. Moi j'ai besoin d'images, moi j'ai besoin de modèles pour comprendre les choses. Donc moi ça fait plus féminin que masculin, ça déjà. Les images elles parlent plus que beaucoup de paroles. Chez moi, elle dit qu'une image vaut plus que mille paroles, mille mots, on peut dire.
Une image vaut mille mots.
Comment?
Une image vaut mille mots.
Voilà, merci. J'essaie de traduire de l'italien en français, c'est pour ça. Donc, quand je fais ici ça, j'ai un modèle que j'aime beaucoup, que je l'utilise beaucoup, je l'utilise beaucoup dans le passé, parce que nous sommes tous connaissants de ça, comment ça marche. Et je pensais donc à l'exemple du tabernacle de Moïse. Le tabernacle de Moïse, qui était fait de trois parties, représente aussi ce que nous sommes dans notre être. Nous sommes en être trois parties. Donc nous avons trois parties, nous aussi, comme c'était pour le tabernacle. Donc c'est une image de nous, en effet. Si on regarde, après on va voir ensemble le parallèle entre le tabernacle, ce que c'est notre être intérieur. Donc nous sommes esprit, nous avons une âme et un corps. Donc, on avait parlé avec vous, quelques-uns, dans le passé de la guérison de l'esprit, donc on avait parlé de ça. Nous sommes esprit. Ça, c'est notre identité, ça, c'est ce que nous sommes. Nous venons du souffle de Dieu, donc nous sommes esprit. Ça, c'est ce que nous sommes réellement. Nous habitons dans un corps et nous exprimons avec une âme. Notre esprit, c'est le moyen de communication avec Dieu, parce que Dieu est esprit. Donc, on ne peut pas communiquer autrement avec Dieu si ce n'est pas par notre esprit en connexion avec l'Esprit Saint et pas l'Esprit Saint avec Dieu. Nous exprimons à l'extérieur de nous par une âme, donc par des pensées, par des sentiments et par une volonté. Mais ça vient, c'est quelque chose que nous construisons dans notre vie. Donc, comme je dis autrefois, l'âme, c'est comme dit quelqu'un, un enseignant, un ministre qui n'a plus avec c'est avec le Seigneur. Les fonctions de l'âme sont comme un conteneur,
un conteneur
qu'on remplit par notre expérience. Donc, c'est le conteneur de pensée. Nous le remplissons en fonction de pensées qui se développent. Et donc, c'est quelque chose qui se construit dans notre vie. Okay? Les émotions aussi. Par expérience, on développe certaines émotions qui font partie après de ce que c'est les émotions. Donc. Et la volonté aussi, c'est des décisions que nous apprenons à prendre des décisions. Donc, on remplit aussi. C'est quelque chose qui vient à notre vie, c'est la vie, c'est notre esprit. Ça, on commence à vivre par notre esprit. Et après, bien sûr, il y a le corps. Et donc, le tabernacle représente un peu ça. Et dans l'image du tabernacle, on peut voir beaucoup de choses parce que c'est une image de plusieurs choses. On peut vivre cette réalité, ce chemin, parce qu'il y a un chemin à partir de la cour, entre le lieu très saint. C'est un parcours, c'est un processus. On peut le vivre de différentes manières parce qu'il y a plein de significations dans les symboles de ce tabernacle. Enfin, il nous parle de Jésus, quelqu'un va plus loin, il nous parle de l'Église, mais déjà, il nous parle de nous-mêmes, de comment nous on relationne avec Dieu, de comment je vois dans cette marche de tabernacle, comment c'est ce processus pour arriver à vivre Christ en nous. Okay? Donc, c'est là qu'on va voir. Déjà, c'est une image de nous-mêmes. La cour, c'est la partie extérieure du tabernacle, celui-là qui est dans la lumière du soleil. Ça, c'est notre corps. C'est ça qu'on le voit. On le voit, c'est évident. Là, on le voit tranquillement avec nos yeux naturels. Et c'est la même chose pour ceux qui sont à l'extérieur dans la cour. Donc, il y avait l'autel et la cuve d'eau. Et là, c'est notre corps. Après, il y a le lieu saint, c'est notre âme, on verra. C'est l'âme, mais dans ce cas, on verra, c'est illuminé par la lumière du Saint-Esprit. Et l'âme, on ne le voit pas. Il n'y a pas de lumière naturelle, on ne peut pas le voir avec les yeux naturels. C'est quelque chose que c'est déjà du spirituel. Donc, c'est au-delà de notre vision spirituelle. De vision naturelle, pardon. Et après, il y a la partie, le lieu très saint, qui c'est notre esprit, où il y a effectivement la communion avec Dieu, la présence de Dieu. Et c'est dans notre esprit que nous rentrons vraiment à vivre directement avec Dieu. Donc ça, c'est déjà le premier parallèle entre nous et le tabernacle. Okay? Mais il y a plus que ça. Donc, il y a ce processus d'arriver à vivre davantage, vivre en Christ. Je dirais, je le vois avec des différents niveaux. En effet, on ne vit pas totalement se vivre en Christ dans un jour, je dis avant. On va par un processus de différents niveaux de profondeur. Donc, il faut le voir aussi dans ce sens, le tabernacle, c'est comme un processus, mais c'est comme un processus qui a différents niveaux de profondeur. Amen. Ça, c'est l'image que je vais prendre. Donc, il y a un processus de croissance, mais toute notre expérience commence avec la cour. Et la cour, j'ai mis des images, je n'ai pas amené le projecteur, mais j'ai fait des photocopies, comme ça vous pouvez suivre.
Tu veux qu'on oui.
Bien sûr, on connaît tous, je pense, ce qu'il y avait dans tabernacle, dans la cour, il y avait l'autel des sacrifices, la cuve d'airain avec l'eau de purification. Donc, la première chose. Comment? Il y a une autre après, mais je vois.
Combien?
De quoi? Une. Une photocopie. Ah, le numéro, je ne sais pas combien. Pas que je voulais dire.
Quel nom.
Ici. Ah, je ne sais pas. Je pense qu'il y a pour tout le monde. C'est ça que tu veux dire? Ah, d'accord.
Je sais pas. Ouais, c'est ça. Bien. Je m'habille en italien, mais ça va.
Mais comme je dis avant,
tu disais en anglais.
Parfois, une des choses qu'on a pour retourner à la différence entre hommes et femmes, c'est que ma femme, elle pense une chose, elle la voit de sa façon, elle l'exprime avec des mots que moi, je ne comprends pas la signification. Donc, j'ai besoin de traduction. Parfois, elle fait d'autres choses, elle pense, et après, elle continue de penser à haute voix. Et moi, que je. Déjà, donc, on a l'hôtel. L'hôtel, c'était du bois d'acacia. Et dans tout le parcours de tabernacle, il y a une signification dans le bois, parce que le bois représente notre humanité. C'est du bois. Nu, si on peut dire comme ça, on voit le bois. Donc, le bois, c'est notre humanité. C'est ce qu'on voit dans cette partie du parcours, c'est ce que nous sommes dans notre humanité. Et l'autre côté, l'autel et le bassin de purification représentent la porte d'entrée dans ce processus. Et la présence de la foi. C'est un lieu qui nous parle avant tout de ce que c'est la confession, la repentance et la purification par le sang de Jésus. Okay? Donc l'autel, c'est le sacrifice, la cuve de vin où il y a l'eau de purification, ça représente la purification par le sang de Jésus. Donc c'est l'image vraiment de la croix. En effet, le sacrifice, c'était ça. Donc c'était une image qui préparait au sacrifice du Christ. Donc, dans l'autel de sacrifice, dans le bassin. Et c'est un lieu de repentance, confession, repentance. C'est comme ça que nous rentrons dans la vie chrétienne. Nous reconnaissons par la lettre du Saint-Esprit que nous sommes pécheurs, nous sommes devant la parole de Jésus. Et que nous reconnaissons, donc par la conviction du Saint-Esprit que nous sommes des pécheurs, nous rentrons dans la confession, dans la repentance. Donc ça, c'est la place où nous sommes. Et c'est là qu'au travers de la croix, nous sommes revêtus de la justice de Christ pour pouvoir aller plus loin et rentrer dans le lieu saint, rentrer au niveau de notre vie qui est spirituelle et pas naturelle. Nous ne pouvons pas rentrer dans le processus, dans cette relation avec Dieu, sans cette robe de justice sur nous, parce que comme on verra dans le lieu saint, on retrouve à nouveau le bois d'acacia dans la table, et dans l'hôtel du parfum, mais ils sont tous revêtus en or. Donc ça veut dire que l'or, ça représente vraiment la justice de Jésus qui nous couvre et qui couvre notre humanité. Autrement, on ne pourrait pas rentrer dans le lieu saint. Donc c'est, dans la vie chrétienne, nous ne pouvons pas nous approcher à Dieu, même si c'est un processus d'approchement. Nous ne pouvons pas commencer ce processus d'approchement à Dieu si nous ne sommes pas revêtus de l'habit de justice de Dieu. Au-dessus de ça, nous sommes toujours humains. Il y a toujours nos faiblesses, il y a toujours notre chair, mais on est couvert par sa grâce d'une justice que ce n'est pas encore la nôtre. C'est une justice qui nous est imposée de quelque part, donc nous est donnée et mise au-dessus, mais on n'est pas encore capable de vivre la justice. La justice, c'est quelque chose qu'on va vivre après avec l'aide du Saint-Esprit. Mais pour rentrer, Dieu nous donne la justice de Jésus qui nous couvre. Et donc, on ne voit plus le bois. Dieu ne voit plus le bois. Il voit l'or sur nous. Même si au-dessus, nous sommes encore en bois. Donc, on a dit que c'est l'autel et le couvre de rein avec l'eau. Il n'y a pas d'autre façon de rentrer. C'est la croix. Et une des choses que je réfléchissais dans ce temps, c'est que nous avons besoin de remettre la croix au centre de notre vie. Je ne sais pas quelle est votre expérience, mais ce qu'on voit aussi chez nous, c'est qu'on ne parle pas beaucoup de la croix de Christ. C'est comme, pour ça c'est résolu, c'est fait. Maintenant on avance comment? La croix de Jésus doit toujours être au centre. On ne peut pas avancer sans l'œuvre de la croix, qui n'est pas quelque chose seulement du passé, quelque chose qui est encore là, qui doit être actif dans notre vie aujourd'hui. Mais c'est très facile de perdre cette perspective. Donc, si on revient aux Galates 2:20, c'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit l'épître aux Galates. Ce n'était pas seulement une église, c'était les églises de la Galatie. C'est qu'ils avaient perdu la perspective de la croix.
Christ et la croix, ils n'étaient plus au centre de leur vie. En effet, ce qu'on lit Galates 3.1, il dit, c'est qui vous a ensorcelé, ça c'est un mot antique, du point que vous voyez plus l'œuvre de la croix, parce que vous avez commencé avec la croix, vous avez commencé après avec le Saint-Esprit, et maintenant vous essayez d'accomplir le salut par votre force et par l'accomplissement de la loi avec vos efforts. Donc vous êtes sorti de la grâce, vous avez perdu, vous êtes devenu aveugle par cette forme de sorcellerie, vous êtes devenu aveugle concernant la croix, vous ne la voyez plus. Et quand on enlève la croix, ça veut dire qu'on revient tout de suite à vivre selon la chair. On ne peut pas le mettre à côté. Chaque jour, Jésus a dit, si vous voulez quelqu'un veut me suivre, doit prendre sa croix chaque jour. Ça n'a rien à faire avec notre belle-mère ou des choses comme ça. C'est une blague. Mais parfois, on dit dans la culture dans laquelle nous avons grandi, donc c'est la croix, c'est les souffrances, c'est les tribulations. Ce n'est pas ça dont Jésus parle là. Bien sûr, il y a les tribulations, mais ce n'est pas ça la croix. La croix, c'est ce qu'on doit choisir chaque jour pour mettre à mort notre nature et pour vivre par l'esprit. Donc, on ne peut pas le mettre à côté, la croix, d'être toujours au centre. Et je pense que dans ce temps, Dieu veut nous ramener l'œuvre de la croix à nouveau au centre. Parce qu'après un moment, on développe des habitudes et on pense de vivre par l'esprit, mais en effet, on est en train d'essayer de faire les choses de Dieu, mais on les fait avec notre force, avec nos systèmes, avec nos programmes, nos stratégies, et on voit bien comment ça marche. C'est pas chez vous, mais chez nous, ça marche pas trop. Mais on a de la peine à se rendre compte que ça marche pas. Mais on doit toujours admettre que notre âne, c'est pas une bête, c'est comme ça qu'on dit en italien. On ne veut pas reconnaître que notre âne, c'est une bête. Bon, on dit que c'est quelque chose de plus, dans le sens de dire qu'on a de la peine à reconnaître là où nous sommes et se revoir et à retourner vraiment au fondement. C'est une façon de dire. Donc, la croix, c'est la seule façon de continuer dans le processus. En Hébreu 10, il dit ainsi, « Donc, frère, nous avons... Au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. » Et ce n'est pas quelque chose qui se passe seulement une fois, c'est quelque chose qu'on doit garder toujours chaque jour dans cette condition pour s'approcher à Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a un habit de justice sur nous qu'on peut, on peut vivre comme une habitude tout ça. Mais il faut être sûr que notre être intérieur est toujours en ligne avec ça. C'est-à-dire que nous avons une conscience aussi purifiée en nous qui nous donne la paix de pouvoir aller plus loin et plus en profondeur avec Dieu. Et ça, c'est un processus. Donc, je dis, le lieu, le cours, la cour, c'est pour notre purification, pour être couvert par le sang de Jésus et pour être habillé avec l'habit de justice. Mais la croix a un autre but, c'est de mettre à mort notre vieil homme. On dit toujours vieil homme, parce que dire vieille femme, c'est pas joli. Mais ça inclut les deux. C'est toujours vieil homme dans les deux cas, parce que pour être gentil aussi, la Bible parle du vieil homme. Ça veut dire l'homme qui a l'habitude de vivre selon la chair, on ne peut pas l'éduquer, on ne peut pas le changer. La seule façon de se débarrasser, c'est de le mettre à mort. Et ça, c'est la chose la plus dure, parce qu'on n'a pas tout à fait l'envie de le faire. C'est pour ça que dans Galates, l'apôtre Paul dit, je t'ai crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On ne peut pas vivre deux choses ensemble. Il n'y a pas une résurrection, une vie de Christ, s'il n'y a pas la mort du vieil homme. Et là aussi, c'est un processus.
C'est pas que le vieil homme est mort avec Christ il y a 2000 ans sur la croix, et ça c'est ce que Jésus a réalisé, mais nous on doit mettre en pratique ça chaque jour. Alors il y a une théologie qui dit tout est fini à la croix, donc il n'y a plus rien à faire. C'est déjà résolu. Donc l'homme est, le vieil homme est déjà mort, donc tout va bien. Ce serait très beau vivre ça, mais ce n'est pas vrai. Jésus a accompli les choses, comme dit Watchman Nee, il explique ça en disant positionnellement, tout était accompli. Mais maintenant, il faut le recevoir et l'appliquer dans notre vie aujourd'hui. Derek Prince dit tout était. Jésus a tout accompli, il l'a mis dans un grand réservoir dans le ciel, et il faut aller chercher ce qu'il y a dans le réservoir chaque jour pour appliquer l'œuvre de la croix dans le domaine dont nous avons besoin. Et d'après, si j'utilise cette image, il y a ce grand magasin dans le ciel, et le Saint-Esprit a la clé pour l'ouvrir, et c'est lui qui va ouvrir par une clé spéciale que sera dans la forme d'une croix. Il ouvre ce magasin et il prend ce que nous avons besoin aujourd'hui et il l'accomplit à nous. Donc tout est accompli, mais on doit le recevoir. Okay? Donc aussi, le vieil homme, il n'est pas mort dans un coup. Nous, on doit le mettre en mort chaque jour, appliquer une mort qui est déjà, c'est déjà passé et l'appliquer aujourd'hui dans notre vie. Alors, en rapport de la mort du vieil homme, l'homme nouveau peut vivre dans notre vie en Christ.
Et plus
l'homme nouveau peut vivre. Et l'homme nouveau, c'est le seul qui peut vivre Christ en moi. Okay? C'est l'homme nouveau en nous qui est régénéré par Dieu, qui est cette nouvelle nature qu'on reçoit du ciel. C'est celle-là qui est capable de vivre Christ en moi. Et c'est là où le Saint-Esprit habite. Okay? Donc quand on parle d'esprit ici, dans ce contexte, comme la troisième partie de ce tabernacle que nous sommes, je parle de l'esprit nouveau que nous avons reçu de Dieu. Dieu nous a donné un nouveau esprit. En Ézéchiel, on a parlé de ça dans le passé, Ézéchiel 36 dit, Jésus dit en parlant déjà prophétiquement de la venue de Christ, il dit, je vous donnerai un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre, si vous mettrez en vous un nouveau esprit, et je mettrai en vous mon esprit. Donc, il nous donne un esprit nouveau, c'est une nouvelle identité qui vient du ciel, c'est quelque chose de pur, parce que c'est appelé en Jean la semence de Dieu en nous, et la semence de Dieu, il ne peut pas pécher, il n'a rien à faire avec le péché, il n'a rien à faire avec le vieil homme, il n'a rien à faire avec notre passé, c'est du nouveau qui vient du ciel, et c'est seulement de cet homme nouveau, de cet esprit nouveau, que nous pourrons vivre Christ en nous. Mais pour que ça soit possible, il faut que le vieil homme puisse perdre sa force, que l'homme nouveau puisse grandir, et donc vivre dans la maturité, la réalité de Christ en moi. Okay? Et donc, en effet, ce processus de tabernacle qu'on va voir, c'est un processus de maturité, de croissance. C'est avancer dans notre vie. Donc, la cour, c'est aussi un lieu où nous nous identifions avec Christ dans sa mort, en mettant à mort notre vieil homme, afin de pouvoir marcher et aller de l'avant dans ce processus.
Avancer
dans le processus. Voilà. En effet, l'Éphésiens, l'apôtre Paul parle de ce processus quand il dit par rapport à votre vie passée, Éphésiens 3, 23, 22, 24, par rapport à votre vie passée, du vieil homme, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice, une sainteté qui produit la vérité. Donc l'homme nouveau est créé selon Dieu, c'est à nouveau l'image de Dieu comme c'était au début, il est créé dans la justice et dans la sainteté, donc c'est déjà une nouvelle nature en nous qui est juste et sainte, et c'est là qu'il doit grandir. Donc il faut mettre le vieil homme à mort et permettre que l'homme nouveau puisse grandir en nous. Il y a une autre chose qui doit s'accomplir à la fois, donc toujours dans cette partie de la cour, où il y a l'autel et la cour de Rhin, c'est que nous devons passer de vivre un autre changement, que c'est la conscience de nous et passer à la conscience de Dieu.
De la conscience de nous.
d'une conscience de nous-mêmes à la conscience de Dieu et d'arriver à la conscience de nous-mêmes par rapport à la conscience de Dieu. J'essaie de m'expliquer. Aujourd'hui, on parle beaucoup de self-conscience en anglais, c'est la conscience de soi, développer la conscience de nous-mêmes, l'assurance de nous-mêmes, tout. Nous-mêmes, c'est le centre. Mais au début, nous n'étions pas, nous ne vivions pas, quand Dieu créait Adam et Ève, nous ne vivions pas, ils ne vivaient pas dans la conscience d'eux-mêmes, ils vivaient dans la conscience de Dieu, et au travers de la conscience de Dieu, ils avaient une conscience d'eux-mêmes. C'était comme un miroir. Donc on savait qui on était en se regardant en Dieu. En se regardant en lui, on savait qui on était. Donc la conscience de nous-mêmes, ça devenait de la conscience de qui Dieu était. Avoir conscience de Dieu, ça veut dire vivre la réalité de qui Dieu est, et lui c'est le centre, et au travers de lui, je connais qui je suis. Donc nous avons développé, à partir de la chute, ce qu'Adam et Ève ont décidé de vivre, c'est de vivre selon leur propre conscience. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, il nous a donné l'illusion que nous pouvons vivre par nous-mêmes sans besoin de Dieu. Ça veut dire que nous avons une connaissance, une conscience de nous-mêmes indépendant de Dieu. Nous n'avons pas besoin de Dieu pour nous connaître. On est sorti de la conscience de Dieu et on est devenu très conscient de nous-mêmes. Ça veut dire que nous sommes très conscients de qui nous sommes, mais nous ne sommes pas toujours conscients de Dieu. La réalité de Dieu, le point de référence qui est lui et pas nous. Nous avons l'habitude de vivre par nous-mêmes, par ce que nous comprenons, par ce que nous ressentons, comme on l'a dit avant. Ça, c'est l'autoconscience. Mais ce qu'on doit quitter, c'est ça pour pouvoir devenir davantage conscient de Dieu. Ça, c'est très difficile pour nous en Occident, parce que nous sommes très concentrés sur l'âme et beaucoup sur le rationalisme, surtout en Europe. Donc, notre raison, ça devient notre conscience. Si nous allons en Afrique ou dans les pays de l'Asie, aussi parce qu'on était là plusieurs fois, ils ont davantage une conscience intérieure, même si ce n'est pas dans la bonne direction. J'essaie de m'expliquer. La conscience de Dieu, ça vient par notre esprit. C'est notre esprit qui ressent la présence de Dieu. C'est pas notre âme. Notre âme, on le ressent comme un reflet. Mais c'est notre esprit qui est en communion avec Dieu, qui nous donne la conscience de Dieu. Et ça, ça va toucher tout notre être. Mais nous avons développé une conscience que c'est une conscience de l'âme. Et l'âme ne peut pas toucher Dieu. Donc il y a un changement qui doit se passer. C'est pour ça que parfois c'est très difficile de comprendre, d'avoir la révélation de Dieu. Dans le monde occidental, on a beaucoup la connaissance intellectuelle, mais très peu de conscience spirituelle, parce qu'on a développé l'âme plutôt que l'esprit. Dans l'Est, dans l'Afrique, ils ont développé leur esprit humain dans la mauvaise direction.
C'est pas l'Est, mais c'est l'Asie.
Même l'Afrique, l'Asie. Donc ils ont développé l'esprit parce qu'ils sont rentrés dans le monde spirituel et on ne peut pas rentrer dans le monde spirituel si ce n'est pas par l'esprit. Donc ils ont utilisé cet instrument qui les a mis en contact avec le monde spirituel, donc ils ont eu conscience du monde spirituel. Et quand ils se convertissent, c'est que donc ils sont libérés et déliés de toutes les choses du passé, quand même leur esprit humain, il comprend qu'est-ce que ça veut dire se connecter avec le monde spirituel, avoir une conscience du monde spirituel, mais cette fois de Dieu. Et donc c'est plus facile de recevoir cette communication avec lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, c'est une autre chose, parce que rentrer dans le lieu saint, dans le lieu très saint, on ne peut pas rentrer avec une conscience de l'âme, il faut rentrer avec une conscience de l'esprit. Et donc, une des choses qui doit se passer dans la cour, donc à la croix, c'est de mourir à notre conscience de nous-mêmes pour devenir plus conscient de Dieu. C'est pour ça que parfois, je dis ça, on a de la peine à dire, ça c'est un peu notre expérience de chez nous, ah, aujourd'hui, il y avait une présence de Dieu formidable. Moi, je dis, ah bon? J'ai vécu d'autres choses, je sais que c'est différent que ça. Donc, on ressent les choses dans notre âme, mais ce n'est pas forcément ce que c'est la réalité de l'esprit. C'est beaucoup les émotions. On a une bonne chance, on a une bonne prédication, et nos émotions sont excitées. on est plus super, mais c'est pas l'esprit. Ok, on doit devenir conscient de ce que c'est le spirituel, et ça c'est dans l'esprit, c'est pas dans l'âme.
Un autre esprit,
par l'esprit. Depuis que nous sommes à l'extérieur, encore dans la cour, nous sommes, ça représente aussi la vie de d'où on est. Quand nous sommes nés de nouveau, on ne fonctionne pas encore dans l'esprit, on fonctionne beaucoup dans la chair. On vit les choses de Dieu encore dans la chair. L'apôtre Paul le dit aux Corinthiens, par exemple. Quand on lit le Corinthiens 3, il dit, vous êtes nés de nouveau, vous avez beaucoup de dons, il a dit ça au début, mais vous êtes encore charnel. Ça veut dire, vous vivez votre expérience de chrétien dans la chair et pas dans l'esprit. Vous êtes né de nouveau, mais vous ne vivez pas par le nouveau, vous vivez encore par le vieil homme, et vous essayez de vivre la vie nouvelle par le vieil homme. Ce qu'enfin, les Galates, ils ont amené à l'extrême. En effet, l'apôtre Paul, il parle là de trois types de personnes, hommes et femmes, je veux dire. C'est l'homme naturel, ça c'est à la fin du chapitre 2, l'homme naturel qui ne peut pas comprendre les choses de l'esprit parce qu'il n'est pas né de nouveau, donc il n'a pas l'instrument, l'homme nouveau pour... et l'Esprit Saint pour comprendre les choses de Dieu. Il y a l'homme spirituel qui a la pensée de Christ, donc il est dans cette maturité de comprendre les choses de Dieu par son esprit. C'est l'homme spirituel, c'est-à-dire l'homme ou la femme qui vit par l'esprit, pas par l'âme. Et après, il y a le chrétien charnel qui est né de nouveau, qui a le Saint-Esprit, mais qui continue à vivre par la chair. Et c'est très facile. Comment ? Dans la force de l'âme, dans mes pensées, dans mes sentiments, vous comprenez? Et c'est difficile pense, parfois de comprendre. Comment?
Je pense, je ressens, sans, je veux, c'est moi.
C'est très rationaliste pour nous. Descartes, il dit, je pense, donc je suis.
Oui.
En Italie, je sens, donc je suis. En Allemagne, je veux, donc je suis. Chaque culture aussi est centrée sur des forces de l'âme. Oui, c'est un bon mélange. Si on va en Suisse alémanique, ça se ressemble beaucoup à l'Allemagne. Je veux, donc je suis. Donc, on a vécu dans on comprenait un peu. Donc, c'est la vie dans la cour, c'est la vie de nouveaux chrétiens. C'est normal qu'au début, soit comme ça. C'est quelque chose qu'on doit apprendre. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on vit toujours dans la cour. Moi, j'ai vécu 35 ans de ma vie dans la cour. Parce qu'il n'y a pas... d'autres façons d'aller plus loin. Donc, mais je ne savais pas comment aller de l'autre côté. Donc ça, c'est la vie de la cour. On a déjà dit assez. Quand nous grandissons dans cette réalité de la vie spirituelle, parce que la parole de Dieu parle de maturité, Romains 8, 14 dit que les enfants de Dieu, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont des enfants de Dieu. Le mot « fils », là, dans ce cas, c'est en grec, ça veut dire le fils ou la fille mûre. « Huios », il y a deux différents en Romains. Romains 16 dit que le Saint-Esprit témoigne de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire, c'est technon, ça veut dire nous appartenons à la famille de Dieu. Mais quand il dit les fils de Dieu, ceux qui marchent par l'Esprit sont des fils de Dieu, il parle de, le mot c'est huios, que ça veut dire quelqu'un qui est tellement mûr, qui représente dans son façon de vivre ce qui est son père. Jésus était le huios du père. Ce n'était pas seulement le technon, c'était huios. Donc c'est un chemin de maturité. Ça veut dire qu'on doit passer un peu de temps dans la courbe pour apprendre après à marcher dans l'Esprit et à rentrer dans le lieu. Saint. Dans le lieu saint, c'est, tout est différent. On a dit avant, les meubles qui sont en bois, ils sont maintenant couverts d'or. Donc, déjà, il y a le manteau de justice qui nous couvre. On ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu sans ce manteau, on a dit. Donc là, nous sommes dans le premier niveau d'expérimenter la présence de Dieu par ce qu'on aura, par l'onction du Saint-Esprit. Okay? On sait bien. Donc la nature humaine est couverte par l'or, par la justice de Dieu, donc c'est comme ça qu'on arrive. Et il y a ces trois objets, on a dit la table du pain, il y a aussi la coupe et le vase avec le vin. Il y a l'autel de parfum. Il y a le chandelier. Ça, et la chose intéressante, c'est que donc, dans le lieu saint, il n'y a pas la lumière naturelle, mais il y a seulement la lumière, que c'est la lumière qui est donnée par le chandelier, qui est allumé par l'huile, pas une huile, c'est l'huile. Donc, tout ce qui se passe dans le lieu saint, il se passe dans la lumière du chandelier qui représente la lumière du Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est là où on commence à vivre dans ce que c'est l'onction de Dieu. Ça veut dire voir les choses et avoir la perspective de Dieu par le Saint-Esprit. C'est une nouvelle perspective. C'est ce qu'on appelle la vie dans l'onction. Je vais expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire pour ce qu'on a expérimenté aussi dans le passé. Donc le chandelier, c'est la seule source de lumière. Il sera présent dans son esprit. Donc, ce que le Saint-Esprit nous donne de vivre de sa perspective. Okay? Et dans cette chandelier, il y avait une forme spéciale parce qu'il y avait 7 branches, au moins il y avait un tronc avec 6 branches. Et de l'huile, la seule façon, c'était de l'huile qui devait être toujours renouvelée. Il y avait un vase qui donnait l'huile et ce vase devait toujours être rempli pour que la lumière continue à rester. C'est le chandelier qui n'était pas allumé, c'était sombre à l'intérieur, donc c'était la nuit. Donc la seule façon de voir, c'était de garder allumé le chandelier. C'est pour ça qu'il représente le Saint-Esprit. Dans le lieu saint, on ne peut pas marcher par notre vue de l'âme, on peut marcher par la vue du Saint-Esprit. C'est quelque chose qu'on doit apprendre. On n'est pas encore dans le lieu très saint. Maintenant, on commence à marcher par l'Esprit. Et la chose intéressante que dit le chandelier, il fallait toujours ajouter de l'huile. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Soyez toujours remplis du Saint-Esprit ». Ce n'est pas une chose qui est remplie une fois, baptisé du Saint-Esprit, maintenant on est toujours
au top.
Au top, non, c'est juste le commencement. Après, il faut garder l'huile qui coule. Ça veut dire permettre au Saint-Esprit d'être lui, illuminer notre vie, nos pensées, donner le sentiment de Jésus et la volonté. Donc, et le chandelier représente toutes les qualités du Saint-Esprit, c'est-à-dire ce que le Saint-Esprit a en soi-même, parce que c'est la personne de Dieu quand même, mais ce sont les qualités de Dieu qui nous sont données gratuitement dans une manière surnaturelle. Okay? Alors, c'est une autre image que je vais mettre.
Pardonne-moi,
parce que le chandelier, on trouve la réalité de tout ce que le chandelier représente en Ésaïe 11. Ésaïe 11, ça nous parle des 7 esprits de Dieu. C'est des choses qu'on sait, pas des choses nouvelles, mais. C'est important de refaire le chemin. Donc, Ésaïe 11, verset 2, il nous parle de ce que sont les qualités du Saint-Esprit que le chandelier représente. Ésaïe 11, 2 dit l'Esprit, il parle de Jésus, de l'onction qui était sur Jésus, il dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ils sont. 7 choses, 7 qualités. Bon, la première, c'est l'esprit lui-même. La première, c'est le fond du chandelier, parce que l'huile rentrait dans le tronc, et à partir de là, il donnait l'huile aux 6 branches. Et quand vous voyez les 6 branches ensemble, ça vous donne ce que je vois, c'est un équilibre entre 2 côtés. C'est pour ça que je mets en bas l'image de cette balance, parce que ça nous montre que les 2 choses, les 2 parties à droite et à gauche, ça nous donne l'équilibre entre les qualités du Saint-Esprit qui doit être présente ensemble, autrement on devient déséquilibré. On ne peut pas prendre une partie du Saint-Esprit, on prend tout, ça prend seulement une partie, ça ne marche pas. En effet, on ne peut pas séparer le Saint-Esprit. Galates 5, 22 dit le fruit du Saint-Esprit est amour, patience, le reste que je m'appelle plus en français, ils sont 9 qualité du Saint-Esprit, il parle du fruit, c'est un fruit. On ne peut pas prendre l'amour, laisser les autres à côté. Non, c'est un ensemble. C'est une personne, donc on ne peut pas la couper en morceaux. C'est la même chose ici, dans le sens que c'est de trois couplettes qu'on a ici de caractéristiques. Bon, le Saint-Esprit lui-même, mais les six qualités qui sont de lui, c'est sagesse, intelligence, je vais vite expliquer ce que ça veut dire. Intelligence, ce n'est pas vraiment le bon mot, en anglais c'est understanding, depuis que c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est une révélation. C'est quand Dieu nous, on disait hier avec l'air, on lit un verset et ça nous donne une compréhension qui va au-delà de la parole. Dieu nous donne la révélation de ce que ces paroles ça veut dire à nous, surtout dans le moment spécial, parce qu'on peut lire la parole chaque fois que nous dit une chose, ça nous parle, ça c'est une inspiration du Saint-Esprit. C'est une révélation immédiate, c'est quelque chose qu'on reçoit comme ça, c'est pas quelque chose qu'on y travaille. De l'autre côté de la balance, il y a la sagesse. La sagesse, c'est quelque chose que c'est acquis par expérience. C'est une qualité qu'on se développe en nous par expérience de comment mettre cette révélation en pratique dans différentes situations. Je fais un exemple. Parole de connaissance. Parfois, on peut recevoir, donc nous, grandir dans la relation d'aide, je parle de l'autre. Dans la relation d'aide, donc, c'est important d'avoir des paroles de connaissance parce que Dieu peut nous révéler des choses de l'autre personne que même la personne n'était pas consciente, mais Dieu nous dit, regarde, ça c'est le problème. Et ça c'est understanding, c'est ce qu'ils appellent ici intelligence, mais c'est une révélation directe de Dieu. Nous avons ça, mais comment nous allons utiliser cette parole de connaissance? Nous avons besoin de la sagesse pour savoir comment le mettre en pratique. Parfois, Dieu nous révèle dans la sondette des choses très profondes, difficiles d'une personne, mais on ne peut pas lui donner cette parole comme ça parce qu'on risque de la blesser, de faire du dégât. Il faut savoir quand et comment le mettre en pratique. Ça, c'est la sagesse. Donc, si on n'a pas de la sagesse, on risque de faire des dégâts par une révélation qu'on reçoit, même une parole prophétique. Comme dit notre ami Pierre-Daniel Martin, Dieu lui donne parfois des révélations très profondes et spéciales, mais dit: mais Dieu ne me donne pas la liberté de le partager tout de suite. Je dois savoir quand et comment la partager. Alors, si je n'ai pas de sagesse, je donne des choses, je fais du dégât plutôt que faire du bien. On a besoin de la sagesse. Si j'ai la sagesse, mais je n'ai pas de révélation, je dis, qu'est-ce que je fais avec ma sagesse? La sagesse est là pour gérer ce que Dieu me donne par révélation. Donc, les deux doivent être là ensemble, en équilibre. Vous comprenez? Pourquoi les deux? Après, il y a une autre chose, le conseil et la force. Dieu nous donne la puissance de son esprit pour partager et vivre cette puissance, mais nous ne pouvons pas utiliser la force comme ça, on doit l'utiliser avec le conseil de Dieu. La puissance que Dieu nous donne, c'est quelque chose de très délicat. On doit là aussi la donner selon ce que c'est. Le conseil de Dieu, ce que Dieu nous dit, qu'est-ce qu'il faut faire, même la stratégie de comment la vivre. Je pense, par exemple, à Josué quand il était devant le Jéricho. Il pensait d'utiliser la force militaire pour conquérir le Jéricho. Dieu dit, ok, je vous donne ma puissance, mais c'est la mienne, et vous la gérez de cette façon-là. Vous faites pendant ce jour le tour, et après, les murs vont tomber. Okay, donc, c'est le conseil de Dieu. Il faut écouter ce que Dieu nous conseille de faire, de ses stratégies et ses façons de faire. Donc, pour mettre en pratique la force et la puissance que nous donne. Jésus priait pendant la nuit pour recevoir la direction et le conseil du Père. Et le jour, alors, il mettait en pratique ce que Dieu avait montré et utilisait la puissance donc, qu'il avait par le Saint-Esprit. Les deux doivent être ensemble. Si on a seulement le conseil, mais on n'a pas de force, on n'accomplit rien. Si on a la force sans le conseil, là aussi, on peut faire de grands dégâts, encore plus qu'avant. Donc. Et après, il y a la connaissance et la crainte de l'Éternel. Ça, c'est un autre équilibre important. Donc, bien sûr, Dieu nous donne de la révélation, donc de connaître dans le sens, pas la connaître rationnelle, mais connaissance dans la Bible, connaître, ça veut dire connaître par expérience. je ne connais pas ma femme parce qu'elle m'a écrit des lettres jusqu'à maintenant. Je la connais parce que j'ai une relation avec elle. Donc, ça, c'est la connaissance. Et connaître Dieu, ça veut dire pas seulement avoir des concepts dans notre tête, mais c'est de le connaître par expérience, avec l'aide de sa parole. Donc, c'est une connaissance qui doit se développer parce que Dieu veut que l'apôtre Paul dit que Christ nous fortifie dans l'homme nouveau, dans l'homme intérieur, par le Saint-Esprit, afin que vous arrivez à saisir complètement l'amour de Christ et vous arrivez à être rempli de toute la plénitude de Dieu. Donc, il y a une croissance aussi dans la connaissance de Dieu. Et cette connaissance, parfois, qu'on développe ça, on risque de marcher dans l'orgueil. Il regarde que ce que je sais. C'est pour ça que de l'autre côté, la connaissance doit être équilibrée par la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, il nous garde humble. Parce que si on a cette connaissance, on sait que si on l'a, ce n'est pas de nous, mais c'est de Dieu. Vous n'avez jamais vu une connaissance avec orgueil? Bon, je ne vois pas mal. J'ai vu aussi la connaissance avec l'humilité et la crainte de l'Éternel. Donc les deux choses vont ensemble. La crainte de l'Éternel est bonne, mais ça fait beaucoup de dégâts. Je m'appelle toujours ce que notre père spirituel, Bruce Thompson, nous disait un jour, que à ce moment-là, je ne comprenais pas. Il dit, plus j'avance à connaître, et plus je suis conscient de ne pas connaître. Enfin, moi, je dis, maintenant, je réalise la même chose. Aujourd'hui, je peux dire, on a étudié beaucoup de choses, on a fait des expériences avec le Seigneur, mais je me sens que je ne connais rien. Donc, là aussi, l'équilibre, vous voyez, c'est pas une chose qu'on apprend dans un jour. Donc, la vie dans le lieu saint, c'est aussi un processus. Ça veut dire que je dois vivre là-dedans, expérimenter ça. Et il y a l'autre chose qu'il y a, c'est la table de pain. Après, je vais bien parler de ce que veut dire l'onction pour comprendre la différence entre le lieu saint et le lieu trois fois saint. Donc, il y a la table de pain, et dans cette table, il y a aussi le vin, qui est utilisé pour les libations, sur le sacrifice. Donc, il y a le pain et le vin. Ça nous dit quelque chose, n'est-ce pas? Donc, le pain était illuminé aussi par le Saint-Esprit, par le chandelier. Le pain, ça nous parle de notre nourriture spirituelle, ça nous parle de la parole de Dieu. En plus que la parole de Dieu, ça nous parle de Jésus qui dit « Je suis le pain du ciel ». Le pain de la vie. Donc, ça veut dire, cette table du pain, ça représente cette communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Ça représente aussi la Sainte Cène, quelque part. Parce que la Sainte Cène, ce n'est pas... notre grand sujet, la Sainte Cène, ce n'est pas juste un acte qu'on fait vite et après on passe à d'autres. En effet, c'est la communion, c'est une communion intime avec Jésus. À travers de l'agrément, nous sommes nourris et rassasiés par la vie de Jésus, renouvelés dans la vie de Jésus. Donc, il y a la nourriture vraiment de la parole, grandir dans la parole de Dieu, c'est la communion avec Jésus par le Saint-Esprit. Donc, c'est la table de pain. Jésus dit, vous devez manger de moi, ça c'est la vie éternelle. Si vous ne mangez pas de moi, vous n'avez pas la vie. Donc c'est le lieu saint, c'est aussi un lieu où nous sommes nourris dans l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui illumine la parole et qui nous permet de vivre aussi la communion avec Jésus. Donc c'est notre nourriture, c'est notre croissance. Après, il y a l'autel du parfum qui représente la prière et la louange. Les prières des saints de l'Apocalypse sont le parfum de Dieu devant Dieu. Et j'ai vu des coupes d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. Et là aussi, cet autel du parfum qui représente la prière et la louange, l'adoration plutôt, c'est toujours dans la lumière du chandelier. Donc, ça veut dire que c'est une louange, une prière par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la chair. Nous pouvons prier dans la cour. Nous pouvons prier selon notre âme, ce que nous pensons, que c'est juste de prier. Là, on apprend à prier selon la direction du Saint-Esprit. Romains 8, 26, nous ne savons pas comment prier, mais l'Esprit prie lui-même par nous à travers des soupirs qui montent vers Dieu. Donc, c'est la prière et l'adoration par l'Esprit. Là aussi, il y a une différence. C'est pour ça qu'on a besoin de la conscience de Dieu pour comprendre la différence. Je fais toujours cet exemple, j'ai déjà fait. Si vous prenez un CD de louange d'un chanteur, un groupe, qui ont de la bonne musique, de qualité, ils chantent bien, et quand vous écoutez ce chant, vous ressentez dans votre esprit que ça vous aide à rentrer en communion avec Dieu. Vous montez avec cette louange. Après, vous prenez notre CD avec notre groupe ou notre chanteur. C'est toujours de la bonne musique. Ça chante très bien, mais rien. Bon, des bonnes émotions, de belle musique, de bon chant, mais ça ne vous amène aucune part. Qu'est-ce que c'est la différence? C'est que la première, c'est dans le lieu saint. L'autre, c'est dans la cour. Un, c'est de l'esprit, l'autre, c'est de l'âme. L'âme est très religieuse, donc nous sommes des êtres religieux. Et l'âme peut être très religieuse, mais c'est quelque chose qui sort de elle, c'est pas quelque chose qui sort du Saint-Esprit. Donc, le lieu saint, c'est là où nous apprenons à vivre là aussi, lire la louange, mais dans l'esprit, dans l'onction de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'onction de Dieu? C'est vrai que si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous avons le Saint-Esprit en nous qui peut s'exprimer par ses dons. L'onction du Saint-Esprit, c'est une capacité naturelle que Dieu nous donne de vivre les choses de Dieu selon ses qualités et sa force. C'est ce qui, comment dire, quelqu'un dit, il y a un baptême du Saint-Esprit, il y a un baptême de puissance. Il y a une différence. Nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit la première fois que nous recevons le Saint-Esprit, mais nous pouvons avoir la puissance du Saint-Esprit. Si on voit l'exemple de Jésus, quand il était baptisé du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit descendait sur lui, il a dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Après, il a vécu les 40 jours dans le désert, la tentation et tout, et après il dit, rempli du Saint-Esprit, il a rentré dans son ministère. Ce qu'on peut dire, ce sont deux étapes. La première, nous expérimentons le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, qui s'exprime à travers de nous, même en parlant en langue, mais la puissance du Saint-Esprit, c'est quelque chose que nous allons vivre quand nous sommes prêts de le vivre. C'est que Dieu nous donne une autorité, une puissance d'agir par l'Esprit qui nous amène à vivre les choses dans le surnaturel. Alors, je dis ça parce qu'on a vécu ça, moi j'ai vécu ça il y a quelques années en arrière, et j'ai vu la différence entre ce que c'était ma vie normale de chaque jour et ce qui s'est passé quand j'ai reçu cette onction. C'était dans les années 94, c'était à la fin de moi-même, après j'ai fait la pause, à la fin de moi-même, à tous les niveaux, c'est un peu ce que je disais hier, c'était la même période de la crise de l'âge moyen, pas du Moyen-Âge, mais de l'âge moyen, parce que parfois j'ai fait des erreurs comme ça. Et là, c'était vraiment tout, était tombé, même au niveau spirituel, il n'y avait plus rien qui marchait. Je dis, Seigneur, c'est fini, qu'est-ce qui se passe donc? Et après, il y a quelques mois après, bon, déjà Dieu avait commencé à travailler pour me montrer des choses que je ne connaissais pas. Et donc, on a vraiment besoin de la pause. Bon, on va faire la pause alors. Je vois qu'il y a besoin de pause. Je vous redirai ça après.